In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou sur Radio G. Aujourd'hui, 15 janvier, nouvelle ère dans la vie culturelle de l'Anjou puisque nous vivons maintenant sur un territoire dont l'action culturelle n'est plus financée par la région des Pays de la Loire. Impossible pour l'instant d'en mesurer toutes les conséquences, mais nous savons d'ores et déjà que des projets, des structures, des actions vont disparaître. L'inquiétude est donc bien présente aussi à Radio G qui est concernée. Alors l'une des réponses à opposer à cette politique, c'est de montrer encore et encore la pertinence du projet d'une des plus anciennes radios associatives de France. Aujourd'hui, 15 janvier 2025, j'ai le plaisir d'accueillir Maryvonne Coat, autrice et poétesse, dont le troisième livre « Nous les Persans » a paru aux éditions Isabelle Sauvage au mois de novembre dernier. Bonjour Maryvonne Coat.
Bonjour Luc.
Et bienvenue dans l'émission. Votre troisième livre, Nous les Persans, apparu au mois de novembre dernier aux éditions Isabelle Sauvage. Ce livre, est-ce qu'il a une date de naissance?
Ah, oui, il a une date de naissance. J'ai commencé à l'écrire en 2017. Alors, je n'ai pas une date plus précise, mais je sais que j'ai des petites notes d'écriture qui datent de 2017.
Comment est-ce qu'on peut le qualifier, ce livre? Parce que moi, j'ai eu tendance, dans tout le travail de préparation que j'ai fait, à parler texte, parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots qui puissent qualifier mieux que ça, cet objet.
Oui, mais ça me va, texte. J'ai moi-même tendance à dire texte très facilement d'ailleurs, à dire mon texte assez facilement. Et puis texte, c'est aussi le textile. Dans le mot texte, j'aime beaucoup cette allusion, donc ça me va très bien.
On parle de poésie avec vous, mais on ne peut pas parler à proprement d'un recueil de poèmes.
C'est pas vraiment construit comme un recueil de poèmes. Il y a peut-être dans l'idée du texte quelque chose qui va du côté d'un ensemble avec des parties, peut-être des textes qui sont quand même reliés les uns aux autres, qui peuvent se lire en tout cas dans la continuité, mais aussi indépendamment, hein, il me semble. Donc c'est vrai qu'il y a une écriture qui n'est pas celle de poèmes distincts, écrits les uns très séparément des autres. Ça, dans l'écriture, c'est vrai que c'est pas tout à fait cette démarche.
La première fois que je l'ai lu en continu. Et il m'est paru évident que c'était en continu qu'il fallait le lire. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un déroulement, en plus de l'intention. Et puis, en travaillant dessus, j'ai donc relu fragment par fragment, et je me suis rendu compte que les fragments tenaient aussi. Qu'ils n'avaient pas le même sens, qu'ils n'avaient pas la même dimension, mais qui tenaient aussi en eux-mêmes, en fait. Hein, alors, je parle de fragments, parce que vraiment, dans mon esprit, pour moi, c'est un ensemble que j'ai malgré tout du mal à dissocier.
C'est tout à fait ça. C'est un ensemble. Je pense qu'il est vraiment écrit dans cet état d'esprit-là, d'un ensemble. Mais pour autant, c'était très important pour moi que chaque fragment, comme vous dites, tiennent tout seul, enfin, qui est une sorte de tenue, quoi, qui puisse quand même être presque indépendant, bon, en tout cas distinct des autres, mais que ça forme quand même un ensemble aussi, donc il y a une continuité. Après, les fragments ont parfois bougé.
Ils ont bougé.
Oui, ils n'ont pas forcément été écrits dans cet ordre-là. Ils ont parfois été un peu recomposés, mais j'ai plus du tout la mémoire de ce travail-là parce qu'il s'est fait au fur et à mesure dans la relecture aussi. pas tant que ça, n'ont pas bougé tant que ça, mais il y a eu quand même des petits mouvements à l'intérieur du texte.
On ne peut pas appréhender ce que vous écrivez sans parler aussi de la forme. Et quand je parle de la forme, c'est vraiment, par exemple, dans Nous les Persans, le choix de la mise en page qui n'est vraiment pas du tout neutre. Et cette mise en page-là, on va y venir, on va l'expliquer, cette mise en page-là, c'est vous qui l'avez décidé ?
Ah oui. Oui, oui, oui. Cette mise en page, elle apparaît très très tôt dans l'écriture. Cette distinction entre deux parties, alors donc d'un côté
à gauche et
de l'autre, à gauche et à droite, hein, voilà. Ça, oui, oui, je l'ai vraiment écrit dans cette forme-là. Alors, ceci dit, c'est pas une décision que je prends au tout début en me disant voilà, je vais écrire un texte avec une partie à droite, une autre à gauche. Ça vient comme ça vient, enfin, c'est une espèce d'ensemble très chaotique encore. La forme, je la trouve en l'écrivant, en fait. Elle apparaît au fur et à mesure et elle s'impose. À un moment donné, ça prend cette forme-là et si ça tient, quelque part, je fais confiance à l'écriture elle-même, en fait. Elle me conduit. Donc, prendre sa forme, oui, prendre sa solidité aussi, à l'intérieur même de ce que je suis en train d'écrire.
Votre livre est édité par les éditions Isabelle Sauvage. C'est pas Isabelle Sauvage qui a dit, je pense que dans l'intérêt du texte, une mise en page de cette nature-là s'impose.
Non.
Non, c'est vous qui êtes arrivé en disant, moi je veux que ce soit comme ça.
Voilà, le texte que j'ai apporté à Isabelle, il était déjà sous cette forme. Il y a eu très très peu de modifications, vraiment à la marge. Je la remercie d'ailleurs aussi pour ce travail-là. Elle est plus que respectueuse et du texte et de sa forme. Elle a veillé à trouver la mise en page, enfin à faire en sorte que le texte puisse être édité dans sa forme initiale, en fait, hein, celle que je lui ai proposée.
Alors ce texte, je vais dire comment moi je le présente. Comme un dialogue entre deux personnes qui se répondent. Et quand je dis ça, je sais que c'est pas ça. Pour moi, si je creuse un petit peu, je l'ai lu comme un dialogue intérieur, non pas d'une personne schizophrène, mais d'une personne qui est dans le doute.
Ah oui, ça me plaît beaucoup ce que vous me dites, parce que effectivement, derrière cette apparence de deux entités très séparées, très distinctes, nous les Persans, nous autres, on pourrait entendre, comme vous dites, un dialogue de, voilà, deux personnes très différentes. Alors que dans le moment de l'écriture, ça correspond beaucoup plus effectivement à ce que vous dites, un dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'il y a derrière ce « nous » et ce pluriel, en fait, il y a mais peut-être une quête infinie et impossible d'un seul et même. C'est aussi pour ça qu'il y a ce tout début et cette toute fin qui cherche à dire ce qui est de l'ordre d'un seul, mais composé, constitué d'une pluralité qui est ce qui nous constitue finalement, qui est à la fois terrible, tragique par certains aspects, et en même temps, c'est ce qui fait notre singularité aussi.
Chaque page, la page de gauche commence par « nous les Persans », la page de droite commence par « nous autres » ou une déclinaison de « nous autres ». Au début de cette lecture, dans mon esprit, s'est construit l'image de deux tribus archaïques qui sont en train d'échanger sur l'essence du monde. Puis petit à petit, ça s'est affiné. Pour moi, effectivement, c'est de l'ordre du dialogue intérieur, c'est-à-dire de nos propres archaïsmes avec nos pulsions d'un côté et notre intelligence de l'autre, qui construisent notre propre dialogue intérieur.
Ah oui, oui, c'est plutôt de cet ordre dans l'écriture, en tout cas, ça correspond plutôt à ça. J'étais plutôt dans ce type d'état d'esprit. Maintenant, je laisse le lecteur s'approprier et se promener là-dedans et faire sa propre, y mettre aussi sa propre lecture. Donc, il peut se prêter à des lectures très différentes, en tout cas sensiblement différentes, où on peut effectivement y voir des choses qui presque même s'opposent, dialoguent entre elles, mais n'appartiennent pas au même monde, au même registre. On peut aussi y voir quelque chose qui est plus peut-être complexe et où les choses sont très, très liées, reliées. Et dans l'écriture, j'étais plutôt sur ce versant-là. Ça ne me dérange pas qu'on y lise aussi autre chose. Parce que je joue quand même aussi avec cette opposition. Je la mets en forme. Elle m'intéresse aussi parce que je pense que intérieurement, justement, on est aussi partagé, on est clivé, on est dans des formes d'opposition et d'ambivalence. Enfin, ça nous ressemble.
Frédéric Germano, qu'on sait être une fine lectrice, elle a fait une lecture d'opposition, puisque les deux textes qui sont page gauche et page droite sont justifiés chacun l'un à droite, l'autre à gauche. Et elle parle de la pliure qu'il y a au milieu du livre comme d'une fracture. Elle dit « la pliure, sorte de gouffre infranchissable sur lequel viennent buter les deux mondes », alors que moi, j'en vois la reliure, ce qui fait un. Et d'ailleurs, ce qui permet aussi le livre, parce que sans cette reliure, il n'y a pas de livre. Donc, ouais. De toute façon, tout est explosé. Ouais. Ça conforte que chacun peut faire sa propre lecture, s'approprier le livre, d'où il est, selon ce qu'il est, selon les émotions du moment.
Oui, et ça, j'y tiens beaucoup. Pour moi, c'est extrêmement important que le lecteur, la lectrice, soit d'accord d'aller aussi mettre son grain de sel et décide de le lire de telle ou telle façon, que ça fasse écho et d'y mettre du sien. Donc, il y a quelque chose dans cette histoire-là qui, moi, autrice, m'échappe, mais qui me revient parfois, enfin, à travers des échanges comme celui qu'on a là, ou à travers aussi, effectivement, la note de lecture écrite par Frédéric qui m'a vraiment beaucoup touchée et où je découvre, au sens vraiment, dans le plein sens de ce mot que j'aime beaucoup aussi, découvre, découverte et découverture, quoi. On enlève ce qui est couvert, où je découvre effectivement l'attention qu'elle a eue, Frédéric, et ça me touche vraiment beaucoup à ce qui se passe là entre ces deux parties, ce qui relie mais ce qui oppose aussi. Là c'est très très juste, quoi. Je trouve aussi cette lecture qu'elle a eue en prenant en compte cette forme et ces espaces dans lesquels il n'y a peut-être pas de mots, il n'y a pas d'écriture, mais où il y a une trace quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce lieu-là. Et ça me plaît beaucoup que le lecteur, il y aille, il y mette aussi du sien. Je conçois que ça puisse dérouter aussi, que ça puisse ne pas être simple. Il n'y a pas un guide de lecture, je n'explique pas quel est le message qu'il y aurait derrière, parce qu'il n'y en a pas.
Moi, voilà, lecteur, j'en ai vu un. Dans ce livre, il y a trois parties. Il y a la partie centrale, donc ces textes qui sont côte à côte. Il y a le tout petit texte d'introduction et le petit texte de conclusion. Et puis, il y a une troisième partie, on y viendra aussi. On va y venir aussi. Mais pour revenir sur la question du sens, toujours de mon point de vue, c'est-à-dire toujours de ce dialogue intérieur. Moi, j'ai vu d'un côté, sur la partie de gauche, une espèce, alors je ne sais même pas si le mot est français, j'ai écrit ce mot-là, mais je ne sais même pas s'il est français, de désabusement. C'est-à-dire peu de constater que le monde est décevant. Et puis d'un autre côté, qui tire des petites bribes comme ça, qui dit « Non, mais nous sommes des humains. Enfin, dans nous, il y a quelque chose qui peut surmonter, finalement, ce désabusement. »
Mais c'est... Oui, c'est vraiment tout à fait ça. Je dois dire que tout à l'heure, vous me demandiez quelle était la période de naissance, on va dire ça oui. comme ça, de ce livre en 2017. Donc, je l'ai écrit entre 2017 et 2020. Et j'ai fini de l'écrire parce qu'il y a un moment donné, il faut décider que ça se termine. Hein. Donc voilà, la date, c'était février 2020. Et je m'apprêtais à le donner à Isabelle Sauvage dans voilà, les 2 mois qui suivaient. Et puis est survenu ce qui est arrivé, la crise du Covid, le confinement, etc. Et ce texte, en fait, est retourné dans un tiroir. Et voilà, je ne pouvais plus du tout en rien faire. Je trouvais que ça n'avait plus de sens d'écrire tout court, d'ailleurs. Bon. Donc c'est resté un an dans mon tiroir et puis ensuite je l'ai ressorti quand même et je l'ai proposé à Isabelle. J'avais besoin de sa lecture. Mais dans l'après-coup, parce que je ne m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment, je me suis rendu compte que toute cette période, elle correspondait à un moment de vie particulier pour moi et aussi pour mes enfants. J'ai 3 enfants qui, à cette période à peu près, arrivaient au tout début de leur vie d'adulte. Et j'étais traversée par quelque chose qui ressemble à ce que vous dites, hein, finalement, une forme de constat triste d'un monde dans lequel ils allaient faire leur premier pas d'adulte. Alors, ils ne sont pas des bébés à cet âge-là, mais malgré tout, quand même, il y a quelque chose qui correspond à des débuts, et j'en étais quelque part assez, assez triste, ouais. Et je me souviens que j'ai eu besoin d'aller dans l'écriture, par l'écriture, parce que, voilà, c'est comme ça que je me dépatouille, on va dire, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, d'aller chercher par l'écriture à saisir ce « nous », parce que c'est le monde, c'est ça, en fait, c'est ce « nous », donc il est fait de... Je ne peux pas seulement penser de manière trop simple que ce sont « ils », les autres, enfin, une entité complètement étrangère qui fait que ce monde est ce qu'il est. Il est ce qu'il est parce qu'il est... Il nous ressemble, en fait, donc il me concerne, donc voilà, j'avais une sorte de besoin d'aller en saisir quelque chose. Et j'entendais une autrice aussi, je ne saurais pas dire son nom cette semaine, je crois, je ne sais plus, je l'ai entendu parler d'un besoin de consolation. Et j'avais quelque chose de cet ordre, je crois, vraiment. Je le dis de manière un peu brouillonne, mais il y avait un peu tout ça. Donc, dans ce que vous me dites, Luc, j'entends, moi aussi, oui, c'est vrai. Quelque chose de désabusé, de triste, et en même temps, le besoin, l'envie qui est malgré tout dans tout ça, des petites choses qui permettent de voir autrement, d'espérer peut-être, ou en tout cas de croire que y a de l'humanité qui persiste, quoi, qui reste créative, qui reste présente.
Ce que vous venez de dire là conforte la lecture que j'ai faite, entre autres sur ce regard que vous portez sur le monde contemporain et sa technologisation et la tristesse de la technologisation de ce qu'elle nous apporte qui n'est que du froid, que des numéros, des nombres, qui n'est pas de l'humain en tout cas. Là, vous en parlez en recontextualisant la décision de le ressortir au regard de l'après-Covid et du monde qu'on offre à nos enfants. Je l'avais faite, cette lecture-là. Je l'avais notée d'ailleurs parce que j'avais l'intention de vous poser une question que je vais vous poser quand même. Vous écrivez comment ? Avec quoi ?
Ah, alors ça peut être tout à fait, voilà, carnet, crayon, oui. comme sur un clavier aussi. Je passe de l'un à l'autre. C'est plus ce qui est là sous le coude et qui est pratique, parce que je ne suis pas très organisée. Alors là, j'avoue. Donc j'ai plusieurs carnets qui traînent, j'en ai jamais qu'un seul, ça m'agace au bout d'un moment. Je préférerais que tout soit rassemblé en un seul endroit, mais c'est impossible. Donc c'est un peu ce que j'ai sous le coude.
Si je posais cette question, bien entendu, c'est parce qu'il y a une récurrence de l'interpellation du numérique, du clavier, de l'écran dans le texte que vous publiez. Et je me suis dit, vais-je tomber sur quelqu'un qui est tellement radical dans sa posture qu'il n'y a que le stylo qui peut fonctionner?
Non. Mais, et puis, tout ce qui est de cet ordre, très technique, même si vraiment je ne suis pas du tout douée dans ce domaine, mais j'en apprécie le côté pratique aussi. Hein, je sais vraiment apprécier des tas de choses qui nous sont permises grâce à ça. Donc, c'est plutôt l'excès et la façon dont ces technologies parfois prennent le pas sur beaucoup d'autres choses tout à fait essentielles, qu'on perde de vue, voilà, qu'on perde de vue, qu'on ne puisse plus voir à force d'avoir les yeux hyper grands ouverts, d'ailleurs, des choses pourtant essentielles, quoi. C'est plutôt ça qui me préoccupe, on va dire. Qui me fait réfléchir en tout cas, qui me donne à penser.
Et puis dans ce livre, nous les persans, il y a cet exergue. Nous accordons bien rarement au monde la présence fervente et inconditionnelle qu'il attend et mérite. Nous prêtons une oreille distraite, une perception monodique à la polyphonie de ses menaces et de ses liesses. Par insuffisance centrale et prudence, nous nous tenons à distance de ces vastes zones magnétiques où une héraldique secrète que notre incuriosité nous dérobe se manifeste, où justement ces polyphonies résonnent. Ça, c'est Nicolas Bouvier, Réflexion sur l'espace et l'écrivain, c'est 1989. Nicolas Bouvier, vous le placez ce livre sous son égide, il représente quoi pour vous, Nicolas Bouvier?
Ah ben c'est un auteur que j'aime beaucoup lire, relire, en fait, que j'apprécie de n'avoir jamais fini de lire. C'est-à-dire que j'ai ces œuvres rassemblées là dans un gros ouvrage qui est jamais très loin et que j'aime beaucoup lire de façon discontinue, de temps en temps, certains textes. D'ailleurs, il y a des textes qui sont plus ou moins courts, donc ça se prête à une lecture aussi parfois pour laquelle on n'a pas forcément énormément de temps. Donc c'est... Je ne lis pas Nicolas Bouvier tous les jours, loin de là. Mais c'est une forme de présence constante. Et cette phrase-là, je l'ai lue après avoir écrit ce texte. Mais quand j'ai rencontré cette phrase, elle a résonné tout de suite. Je trouvais que c'était... J'avais envie de faire un cadeau à mon texte en lui donnant cette phrase, sans prétention bien sûr, mais ses polyphonies et puis la manière dont il suggère qu'il y a une attention à prêter. Il y avait vraiment beaucoup de choses parce qu'elle est longue cette phrase aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, mais moi qui m'ont tout de suite beaucoup parlé. Et j'avais l'impression que ça pouvait s'adresser aussi à ce texte. Pas seulement à moi, mais à mon texte, là où il en était, tel qu'il avait pu s'écrire. Avec, possible dans lequel j'ai pu être. Mais...
L'idée de faire un cadeau au texte qu'on vient d'écrire est quand même une idée magnifique.
Et oui, c'est pour ça que je ne me lasse pas de lire Nicolas Bouvier. Et vous avez dit, Luc, réflexion, donc le titre de texte dont est extrait cette phrase, réflexion sur l'espace et l'écrivain. Je crois que vous avez dit, mais c'est l'espace et l'écriture.
Et l'écriture, oui.
Et quand j'avais recopié cette phrase, parce que je venais de la lire et que je la trouvais tellement... elle me parlait tellement beaucoup, je l'avais simplement recopiée, mais sans noter le titre du texte. C'est Isabelle qui m'a demandé au moment de la parution d'aller vraiment rechercher précisément le titre du texte dont elle était extraite. Et c'est là que j'ai retrouvé ce titre, Réflexion sur l'espace et l'écriture. Et ça m'a fait très plaisir parce que Je n'avais pas du tout fait attention à ce titre, mais en fait, y compris ce titre-là, pour moi, résonne aussi avec ce que j'ai tenté d'écrire, enfin, ce qui tente de s'écrire dans ce livre-là.
Je vous propose une pause musicale. Vous venez d'entendre un extrait du titre « Le lait cru de la vie », titre du dernier album de Titi Robin. Et mille excuses à lui pour avoir mal nommé ce titre dans la newsletter de l'émission. Vous écoutez Entre les pages, et ce n'est que sur Radio G. Rejoignons maintenant Marie-Vonne Coat. Si on monte un peu dans le temps, en fait si on commence à votre existence d'autrice, dans les carnets d'un chorégraphe, c'est votre premier livre publié. Là, il y a aussi une forme. Les mots se répartissent sur la page. Il y a des blancs, il y a des mots comme ça, isolés. Il y a des mots qui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on recherche dans cette disposition du texte ?
C'est toute une histoire aussi, les carnets. En fait, au tout début de l'écriture de ce texte-là, c'est pas du tout cette forme. En fait, c'est un récit au départ.
C'est un récit.
Oui, étonnamment. C'est un récit, une histoire.
Mais il est là, le récit. Hein. Il est toujours là. Hein.
Je pense, mais oui. Ça, vraiment, ça ne m'appartient plus du coup. Mm-hmm. Mais à la base, il y a un récit. Et puis, petit à petit, ce récit prend cette forme un peu particulière. Et des sortes de ruines. J'avais beaucoup aimé aussi cette phrase que j'avais entendue d'un jeune auteur, Simon Joannin, qui, ça devait être dans un de ses livres, qui parle de la poésie en disant que c'est peut-être la déambulation dans les ruines d'un récit. Alors, cette phrase-là, vraiment tout de suite, elle m'a beaucoup parlé aussi en écho à ce texte-là, parce que c'était vraiment cette démarche. À la base, il y avait un récit, mais qui est devenu quelque chose dont il ne reste plus que effectivement des mots, des traces éparpillées, qu'on pourrait penser éparpillées sur les pages. Et pour moi, c'était une façon de travailler sur la question de la mémoire, justement aussi, de la trace, de la mémoire, de ce qui reste, et en particulier la trace et la mémoire de notre corps. Ce qui se passe aussi quand on perd la possibilité même de se mouvoir, de bouger, quand il y a une perte de ce côté-là. Ce qu'il en reste et ce qui persiste. Mais voilà, c'est un commentaire que j'ai là qui peut ne pas du tout correspondre à la façon dont un lecteur va, lui, décider de se promener dans ce texte. Donc, j'ai pas non plus envie d'imposer une lecture qui serait celle-là. Je décide pas en le disant là que c'est comme ça qu'il faut le lire.
Quand vous faites cette référence aux ruines, vous nommez ce que je cherchais. C'est-à-dire qu'en lisant ce texte, je pressentais quelque chose. Et là, vous utilisez le mot ruine et je me dis, mais oui, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que j'ai lu un récit, ce récit est là, mais ce récit ne s'appuie que sur des bribes, que sur des petits segments, des mots. Au bas de la page 25, il y a « me dit Maïté ». Puis c'est tout. Avant, il y a un blanc. Après, il y a un blanc. Juste avant, me dit Maïté, il y a un blanc. Puis avant, il y a à l'hameçon de ta question, enlève le point. Pour moi, il y a un récit, un beau récit. Le récit des carnets du chorégraphe, véritablement, avec trois protagonistes, trois autres protagonistes. Et ça va être un long un carnet, quoi, qui est daté. Et je trouve que l'émotion qui ressort des propos de, je vais dire, cet homme, puisque c'est le chorégraphe. Quelque chose qui touche presque à la nostalgie, presque à quelque chose qui a disparu, presque. Même si les corps qu'il a en face de lui sont des corps vivants, qui bougent avec leurs problématiques, mais il y a quelque chose, on sent chez lui quelque chose qui est de l'ordre, à moi, lecteur, de la nostalgie. Et puis, vous avez trois livres à votre actif. Il y a Les Caducs, c'est le livre du milieu.
Oui.
Encore.
Pour l'instant, pour le moment.
Pour le moment. Et là, alors là, on change d'univers, on change de monde, là, c'est radical. Là vous êtes allé, vous avez tout chamboulé. En fait, dans ce livre-là, c'est d'abord ce livre, il s'appuie sur un concept, le tissage. Il y a quatre chapitres dans ce livre, un petit livre. Quatre chapitres, fil versant, trame envers, trame versant, fil envers. Cette référence au textile, au fil qui se croise, à la matière sans doute. Ça s'origine où? Ça vient d'où cette référence au textile, au fil, etc.
Alors, en fait, ça vient du premier, ça vient des carnets, et ça vient de la forme première des carnets.
Ah, les formes premières chez vous.
Que vous avez sous les yeux, là.
Les formes premières qui sont honteusement pas publiées, parce que c'est pas normal que
mais
ça ne soit pas publié.
Mais c'est pas publiable non
mais
plus,
si.
Ce sont mes carnets d'atelier, mes échafaudages... Pour que tout ça tienne. Là, sous cette forme-là, et je l'aime beaucoup, ce texte, évidemment-là, mais il est encombré, il y a trop de choses. Et en fait, il est couvert, recouvert, et voilà, il a tout un tas de couvertures sur lui. Et moi, je remercie au contraire Isabelle et Alain, d'ailleurs, hein, parce qu'ils l'ont lu ensemble, enfin, chacun d'ailleurs, ils n'ont pas fait la même lecture tous les deux, mais d'avoir... parce que je le leur ai donné sous cette forme-là, d'avoir pu lire le texte dépouillé de toutes ces couvertures-là dans lesquelles il était...
Il fallait le ruiner.
Et oui, c'est ça. Mmh. Et Moi, ce texte, en fait, pendant tout un temps, parce qu'il a vraiment été très longtemps dans un tiroir, ce texte-là, vraiment des années, je ne le comprenais pas vraiment moi-même, en fait. Je ne savais pas... Vraiment, je ne savais pas du tout... c'était un espèce d'ovni pour moi. Et j'ai eu besoin de le mettre sous cette forme-là, pour moi d'abord, je crois, pour qu'il, voilà, pour qu'il tienne, pour qu'il ressemble à quelque chose, peut-être. À un moment donné, j'ai eu vraiment besoin de le donner à lire parce que il fallait aussi qu'il y ait cette, enfin que ça sorte, qu'il y ait cette, une lecture quoi, hein, qui soit faite. Et Isabelle et Alain me l'ont renvoyé d'une certaine façon en extirpant le texte, les mots de toute cette gang. Et ça m'a amené à vraiment, ça a été un moment enfin, très puissant, hein, parce que d'une certaine manière, je ne l'avais, moi, encore jamais lu réellement comme eux venaient de le lire. Donc, ça a été très, 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 très puissant, ce moment-là. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup à réfléchir à donc, toute cette matière qui a servi à construire, à écrire, à produire, à créer, tout ce qu'on veut... et qui n'est plus nécessaire à un moment donné, dont il faut se débarrasser, qui, toute cette enveloppe, ces enveloppes, et c'est ça qui a donné, qui m'a amené à écrire Caduc, les Caducs. Hein. Évidemment, en écho aussi avec ben, le fait de donner vie, et d'être, et c'est cette, plus qu'une allusion, parce que c'est construit aussi le texte, mais ce qui fait référence... littéralement à travers le mot caduc à la maternité, on va dire, pour rester pour ne pas donner tout de suite toute la définition. Donc tout ça se rencontre, mais c'est le point de départ, il s'origine quand même dans le, en fait, dans les carnets. Et pour moi, en ayant écrit 3 livres là maintenant, je découvre aussi comment chaque livre contient en germe le suivant, même si dans ce que ça va donner au final, ça peut paraître très différent et sans lien. Mais dans mon processus d'écriture, on va dire, les germes, ils sont là.
Les Caducs, 4 chapitres agencés, on revient à la forme. Il y a pas, la forme n'est jamais neutre avec vous, jamais innocente. Les 2 chapitres extérieurs, donc le premier et le dernier, sont imprimés sur du papier normal. Les 2 chapitres centraux sont imprimés sur du papier calque. On retrouve donc envers, endroit. Puisqu'il y a papier calque, ça veut dire que quand on tourne la page du texte qu'on a lu à l'envers, on voit le texte à l'envers. Et si le lecteur fait un effort, il va se rendre compte que le texte est doublement à l'envers, puisqu'il est à l'envers par transparence, mais à l'envers, il commence par un bout et finit par l'autre. Mais le texte suivant est encore dans l'autre sens. Donc, on est à chaque fois sur un texte qui mute à l'envers, à l'endroit, textile, au-dessus, en dessous, qui se croise, etc. Ça donne une lecture très étrange. Moi, je l'ai lu. Bien sûr, quand on le lit, il y a quelque chose de mystérieux qui se produit. Cette question de la forme, elle est née aussi dès le début. Cette question de triturer le texte de cette manière-là, elle était dans l'intention initiale ?
Pas du tout, pas du tout. Le premier jet, c'est le texte écrit centré, là, avec quelques mots, oui. Quelques vers, donc qui doit correspondre à la première partie. Et c'est venu très vite, hein, c'est un texte qui s'est écrit assez rapidement. Et puis, à un moment donné, en le relisant, En fait, j'en avais marre de le lire sous cette forme-là. Je trouvais que je me suis mise à douter de cette forme. Elle n'était plus du tout évidente pour moi. Et presque par jeu, j'ai fait le contraire. J'ai tout compacté.
Oui, donc. Là, on est dans de la prose.
Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant aussi. Parce que ça n'amenait pas la même lecture. Puisque les espaces, l'espacement, le rythme, le souffle n'est pas le même. Donc, ça donnait une liberté un peu différente dans la lecture. Je me suis dit, tiens, les deux fonctionnent finalement. Et puis, là, mais c'est presque à force de lire, d'être moi-même en train de regarder ce texte finalement, je commence à lire par la fin, et puis je remonte, et je me dis, c'est drôle, ça. Il y a quelque chose aussi, là encore, il y a encore une autre lecture possible. Donc, je m'y mets, je le réécris dans ce sens-là, à la fois donc centré et puis compacté, on va dire. Et je me retrouve avec 4 versions d'un même texte. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne 2 par 2, mais je suis incapable de choisir laquelle. Laquelle est la plus intéressante ? Est-ce que c'est celle écrite avec cette espèce d'endroit, quoi, hein, ou bien remis dans l'autre sens ? Donc je donne les 4 à Isabelle, en lui disant, je ne sais pas laquelle choisir, j'ai l'impression qu'il y en a une... Enfin, je ne saurais pas te dire. Et Isabelle me dit, mais ce sont les 4 qui sont intéressantes, les 4 ensemble. Donc là où précédemment, pour les carnets, en quelque sorte, Isabelle m'avait dit, il faut enlever, enfin, ce qui est intéressant, c'est le texte mis à nu. Là, au contraire, c'est là où je m'attendais à... Et j'avais écrit dans cette idée aussi de quelque chose de très qui n'était plus du tout encombré de quoi que ce soit. Je me retrouve en fait à composer cet ensemble de 4 textes. Et c'est à ce moment-là aussi qu'Isabelle me dit qu'elle verrait bien les parties du centre, du milieu du livre là, sur du papier transparent. Ça, c'est vraiment Isabelle qui l'a imaginé, proposé, et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que c'est tout à fait ce dont ce texte, cette partie-là du texte a besoin, en fait, de ce type-là de papier aussi pour rencontrer ce texte à travers un papier qui laisse les mots par transparence s'agglomérer aussi et se lire peut-être avec une sorte de fantaisie peut-être ou de liberté.
Moi j'ai mis un intercalaire.
Oui.
J'ai mis un intercalaire pour pouvoir lire le calque parce qu'il y a une l'image les lettres deviennent troubles par le phénomène du calque. Donc voilà.
Alors moi j'aime bien mettre ma main quand je le lis.
Ah oui.
Oui. Je mets ma main.
Je fais la même chose que vous.
Et
en ce moment.
Voilà.
Oui oui. Effectivement,
il y a quand même une transparence qui fonctionne. Bon.
Vous l'avez dit à plusieurs reprises, puisque dans cette conversation, vous avez dit, moi, je ne peux pas décider à la place du lecteur ce qui fait sens. Ce qu'il y a dans mon texte, je ne peux pas être à la place du lecteur pour lui dire ce qu'il y a dedans, puisque c'est lui qui va dire ce qu'il y a dedans. Oui. Et là, on est dans presque du méta-texte, parce que cette addition de 4 textes identiques, qui sont tous différents, bien que les mêmes, remettre le lecteur encore au cœur, c'est-à-dire que lui a sa propre lecture et a encore une lecture additionnée de 4 fois, parce qu'il lit, il lit les mêmes mots. Je ne vais pas dire le même texte,
il lit exactement les mêmes mots.
Et ça, j'ai trouvé ça, moi j'ai beaucoup aimé. Alors après, il faut que chacun aille sur ce livre, il faut que chacun en lise pas les attendus, mais des éléments de connaissance pour pouvoir pénétrer vraiment et là vraiment dans le texte. On arrive à la fin de cette conversation et je vous ai fait subir une épreuve terrible, je vous ai demandé de choisir, d'extraire 3 livres de votre bibliothèque parce que ce qui est un présupposé complètement fou, j'ai supposé que vous aviez une bibliothèque.
C'est une bonne supposition.
Je vous ai donc demandé de venir avec 3 livres, parce que je pense que ça peut compléter. On a parlé de votre travail d'écriture, de la réflexion sur la forme, de la manière dont vous procédez. Et puis je me suis dit, ben peut-être qu'on peut éclairer aussi une personne par les livres qu'elle a et les livres qui sont peut-être elle. Donc, vous êtes venu avec quoi ?
Alors, je n'ai pas forcément cherché à choisir des livres qui me représentent ou qui représentent. Je ne suis pas du tout allée dans ce choix-là.
Vous n'y pourrez rien, ils vous représenteront.
C'est ça, voilà. Et effectivement, j'ai une bibliothèque, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque et donc d'avoir de multiples livres. Et ça a été une vraie épreuve, ce que je vous disais, Luc, tout à l'heure, parce que vous me l'aviez dit comme ça, je me suis dit, oui, ben, ça va, choisir 3 livres. Mais en fin de compte, J'ai fait plusieurs fois, j'ai changé plusieurs fois mon choix. Mmh. Donc, voilà.
Et donc, le choix du moment ?
Le choix du moment, c'est vraiment ça. Le choix du moment, j'ai pris le livre de Layli Long Soldier. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom, son nom et son prénom. Layli Long Soldier. Et le titre, c'est « Attendu que ». C'est publié chez Isabelle Sauvage aussi. C'est traduit par Béatrice Machet. Et c'est un livre qui est paru en 2017, il me semble. Alors, il est peut-être paru chez Isabelle en 2020, si je regarde bien. Peu importe, il y a quelques années en tout cas. Et moi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Que j'ai relu par fragments, que je sais que je relirai. Qui est écrit par une jeune autrice. Elle est présentée donc comme une jeune poète et artiste Sioux Oglala, qui vit maintenant au Nouveau-Mexique, à Santa Fe. Et dans ce livre, qui est composé de deux parties, il y a une des deux parties en tout cas, qui est une réponse point par point, mot après mot, à la résolution du Congrès d'avril 2009, qui formulait les excuses du gouvernement américain aux Indiens. Et des excuses qualifiées...
aux nations premières.
Voilà, c'est ça. Qualifiées de réconciliation historique, mais complètement passées inaperçues, restées lettres mortes. Alors, elle répond à cette... Elle reprend cette résolution, elle y répond d'une manière très forte et en utilisant aussi véritablement l'écriture et la langue pour aller creuser ce qui se dit derrière tout ça, ce qui veut se dire ou ce qui ne veut pas se dire derrière tout ça. J'ai trouvé ça vraiment magnifique dans cette seconde partie.
On rappelle le titre ?
Attendu que.
Voilà. Deuxième choix.
Deuxième choix. Hélène Lanscott, l'autrice, et le titre du livre « Ma femme, cet animal », qui est paru chez Chêne, éditeur, tout récemment, c'est peut-être même cette année, ou enfin, en tout cas 2024, que j'ai beaucoup aimé lire ce livre aussi. Un texte en prose poétique qui est constitué de petits textes courts, mais tout à fait reliés hein, les uns aux autres, avec des titres, chaque petit texte en apparence comme ça, très simple. L'espérance, le mur, la cage, le lièvre, la peau, l'invisibilité, etc. Mais dans lesquels... se glisse une présence, une sorte de présence autre. On glisse comme ça de l'humain à l'animal, du féminin au masculin, et réciproquement aussi. Et on est comme ça dans une sorte de mouvement de déplacement dans la lecture qui est très subtil, très plaisant. Et un texte dans lequel il y a beaucoup de questions aussi, qui sont faussement naïves. Où aller avec une vie au creux des mains ? Pourquoi les nids que l'on découvre sont-ils toujours abandonnés ? Et cette autre question que j'aime beaucoup, nos ombres mettent-elles du temps à nous ressembler ? Très beau texte.
Donc ça, c'est votre deuxième choix.
C'était le deuxième choix.
Et le troisième ?
Et le troisième, très différent, mais néanmoins pour moi aussi très important par les temps qui courent. Un très beau titre, tout simple, « Résister ». Écrit par Salomé Saquet, qui est une jeune journaliste française qui travaille notamment sur le Média Blast, entre autres, hein, elle fait bien d'autres choses. Elle avait fait paraître un premier livre, un autre livre précédemment qui s'intitulait « Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse », auquel j'étais aussi très sensible. Une longue enquête sur la jeunesse en France. Et là, dans ce livre, qui est un petit livre, qui ne paye pas de mine comme ça en apparence, avec ce titre au milieu, sans rien d'autre, très sobre. Dans ce texte, elle invite à prendre position et à réfléchir à ce que veut dire ce mot par les temps qui courent aujourd'hui, actuellement, dans ce monde-ci. Elle ne se contente pas de faits qu'elle rapporte de manière très rigoureuse. Elle va aussi jusqu'à penser et aider à penser de quelle façon on peut résister, comment on se positionne, comment on fait à être aussi dans l'action et dans ce qu'elle appelle les résistances plurielles. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que les pluriels me parlent bien, vous avez remarqué. Donc, voilà, et j'aime beaucoup regarder ce livre, voir ce livre dans certaines librairies, auprès d'autres livres qui sont très arrogants et très gros, avec des portraits et des titres assez prétentieux. Et j'aime beaucoup voir ce petit livre discrètement installé juste à côté. Donc, j'ai très envie d'inviter à lire aussi ce livre-là, aujourd'hui.
Bien, Marie-Vanne Coate, je suis vraiment ravi qu'on ait eu cette conversation.
Moi aussi.
Très éclairante.
Merci, Luc.
J'ai beaucoup apprécié votre écriture. J'apprécie beaucoup votre écriture. C'était une... Alors, j'ai dire une révélation. Alors, j'avais eu la chance de voir le brouillon. Nous les persans, brouillon qui continue de m'éblouir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça ne sera pas celui qui sera entre les mains des lecteurs. C'était une révélation et je trouve que ce nous les persans mérite le voyage. En fait, il mérite que les lecteurs voyagent avec vous. Je vous remercie de vous être déplacé jusque chez nous, jusqu'à Angers, par cette très très belle journée. Je vous souhaite à nouveau une bonne année, puis un bon retour à Rochefort. Au revoir.
Merci beaucoup, Luc, pour votre invitation. Merci à vous.
Radio G, c'était le contrepoint du midi, extrait du dernier album de Pierrick Menuot et Gaëtan Nico. Mais Valentin Dedon, de quel livre va-t-il nous parler dans la chronique lue et approuvée ? Bonjour Valentin Dedon.
Bonjour Luc, bonjour à toutes et à tous.
Nous nous sommes rencontrés il y a quelques temps déjà pour... la publication de deux de vos livres. Mais aujourd'hui, vous faites quoi ?
J'écris, je suis écrivain.
Écrivain professionnel ?
Professionnel, je ne sais pas, plutôt amateur. Moi, j'aime bien le mot amateur, j'y tiens. Oui, c'est l'écriture qui guide un petit peu tous les projets qui prennent des formes assez différentes. Voilà.
Mais aujourd'hui, pour cette petite rubrique lui approuvée, vous êtes venu nous parler de quoi ?
On va parler de poésie, d'alpinisme et d'amour.
Quel beau programme !
Comment oublier un amour perdu ? On ne l'oublie pas. Mieux, on l'écrit. Pour éterniser en soi un sentiment inouï, une peau qui manque, un regard qui hante. Pour les chérir encore. Pour les fixer un peu plus loin. Dans le temps devenu irrespirable. Dans l'espace aussi fragile qu'un crépuscule. Dans les mémoires des autres vaincus. Celles et ceux qui cherchent un réconfort. Lectrices et lecteurs lentement cicatrisant par le beau, par le texte, par la poésie. Plus qu'un amour perdu, André Velter a écrit une amour morte, une amoureuse disparue, ensevelie sous la neige un mercredi de l'année 1998, quelque part dans l'immensité d'une haute montagne au Népal, son pays d'adoption. Chantal est morte. Trois mots reçus par téléphone, trois mots qui éteignent tout. Trois mots pourtant que je ne peux contrer qu'avec les mots qui nous ont réunis, écrit le poète dans le septième sommet, paru chez Gallimard en 1998. Un livre phare parmi trois, chronologiquement le premier volet d'une trilogie dédiée à l'être aimé et dont les deux autres unités ont pour nom L'amour extrême, publié en 2000, et Une autre altitude, sorti lui en 2001. Tous les trois sous-titrés « Poèmes pour Chantal Mauduit ». Chantal Mauduit, héroïne en altitude, une nomade qui a fait de sa vie une œuvre vertige. Elle qui dessinait des fleurs et écrivait des poèmes sur sa toile de tente à l'heure du bivouac. Si l'amour est bel et bien un miracle, l'écriture aussi. Car Chantal existe encore aujourd'hui, à contre-mort, par la grâce des textes d'André Velter. Il lui parle bien sûr, à mi-chemin des murmures et des songes, précise-t-il. « Je suis tendresse dépossédée », ajoute-t-il cette fois dans notre direction, observant d'en bas, du fond de l'ombre, des hauteurs désormais inaccessibles, sinon par un amour fou, sinon par l'alpiniste total qu'elle était. On est ici à la fois si proche et si loin du sport qui m'est cher et que j'aime chasser partout dans les livres, dans la poésie, dans les sentiments des êtres humains. Chantal Mauduit, avec son sourire irradiant, déplorait justement sans haine que certains confondent l'alpinisme avec un sport. Pour moi, disait-elle, c'est une façon de rechercher des horizons, la plénitude, la sagesse, un mantra qui n'empêche pas l'exploit. Elle a gravi sans apport d'oxygène 6 des plus hautes montagnes de la planète, dans l'Himalaya. Il en restait 8 à atteindre pour compléter la collection des sommets culminant à plus de 8000 mètres. Alors la poésie d'André Velter se charge de l'inachevé. « Il m'appartient désormais par la seule force de mon amour, écrit-il, et pour disputer à la mort les noces qu'elle nous a volées, d'escorter ta course vers les autres sommets. Tu vis à l'infini, disait hier encore l'homme poème à la femme soleil qui chaque jour danse sur l'horizon. Le deuil ? Certainement pas. Je cite une dernière fois le poète, « C'est une mort pire que la mort, une défaite à petit feu, un retour à la norme du commun des mortels. » Voilà encore une leçon consolatoire que l'on doit à ces trois recueils. Non, les amours mortes n'ont pas besoin d'être enterrées.
Merci, Valentin. C'est toujours une surprise dans cette rubrique parce que je ne sais jamais ce que les personnes qui viennent, avec quel livre elles viennent. Quel argument vous utiliseriez pour convaincre les auditeurs de lire ces livres-là ?
Ouais, j'ai peut-être essayé de tout mettre dans la petite chronique écrite, mais l'argument c'est de dire que l'amour ne meurt jamais. Voilà, y a rien qui fait disparaître un amour dès lors qu'un sentiment est né, qu'il a été verbalisé, quoi qu'il puisse arriver à l'un, à l'autre, à l'expérience, l'amour ne meurt pas. Il est là, il est toujours là. Moi, ça me console beaucoup et je trouve que ces trois livres-là nous disent ça.
On rappelle les références ?
Une autre altitude, L'amour extrême et Le septième sommet. Donc, ce sont trois recueils d'André Velter disponibles aux éditions Gallimard.
Merci Valentin Dedon et puis je vous souhaite à nouveau une bonne année. Au revoir.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Valentin, c'est toujours un vrai bonheur de vous entendre et nous recommandons très chaleureusement l'écoute de votre belle émission qui porte le nom de Albertine, toujours sur cette même antenne. Mais entre les pages, c'est terminé, vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 29 janvier à 17h. L'émission parlera de ces personnes qui décident d'écrire leur vie. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis, bien évidemment, le magazine Topette, animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.